Nous allons maintenant entendre le dernier intervenant, dont je me demande s'il figure en dernier sur votre programme, mais non, il est au milieu où il y a un lac et où coule une rivière, le lac Léman. Genève, ma chère université de Genève, je suis, comme vous le savez peut-être, et peut-être pas, et d'ailleurs ça n'a pas une immense importance, mais je tiens à le dire, un ancien de Genève, et j'ai le plaisir de pouvoir écouter avec vous maintenant un ancien de Genève aussi d'ailleurs, mais qui est aussi en même temps un présent de Genève et un futur de Genève, ou le futur de Genève, Laurent Cesali, qui est professeur de philosophie nerf, comme on dit là-bas, de philosophie médiévale à l'Université de Genève. Alors, il a beaucoup écrit, il a travaillé sur le réalisme propositionnel, c'était le sujet de sa thèse, soutenue il y a maintenant quelques années. Nous travaillons ensemble dans un petit groupe à l'édition d'un texte dont nous avons annoncé l'édition, je crois, le jour où l'école pratique des hautes études a pris feu, le De Signis, et alors sans incendie aujourd'hui, du moins je l'espère, nous pouvons signaler qu'il dirige une entreprise inhumaine qui est la version désormais paraître dans la nouvelle lingua franca, l'anglais, de la grande histoire allemande de la germanophone de la philosophie. Un premier volume paraître en allemand, lui, ce sera le dernier, sur le XIIe siècle, auquel il m'avait fait le plaisir de m'inviter à participer d'une certaine façon il y a pas mal d'années. Bien, alors nous écoutons Laurent qui va, passant, du souvenir du futur à l'histoire au passé composé, et nous donner une belle démonstration, j'imagine, de la concordance des temps en histoire.
Merci, cher Alain. On a déjà plusieurs fois entrepris, et dans des registres différents, de faire l'état des lieux de notre discipline. À Rome, en 1989.
Oui.
Je pense qu'il y a un grave problème avec ce PowerPoint.
Il manque trois. Studi di...
A Erfurt, en 1997.
La philosophia tra 8 e 900, contributo in bilancio storiografico, credo.
Et plus récemment à Freiburg en 2016, ça s'annonce mal. La question mise aujourd'hui par Alain de Libera, aujourd'hui et dès sa leçon inaugurale de 2014 sur notre table de travail, et qu'il nous adresse si généreusement, est d'un ordre encore différent. Elle invite à un état des lieux, certes, mais qui n'a rien du bilan ou du constat. Où va la philosophie médiévale ? La question est éminemment programmatique et prospective, mais elle possède aussi, telle que je la comprends du moins, une dimension réflexive. Tu me connais, cher Alain, j'ai une certaine tendance à... Notre cahier des charges pour ces journées parlait de prise de position personnelle. Je ne ferai pas autre chose, mais je le ferai deux fois. Ta question appelle en effet à mes yeux une réponse multiple, et pour ainsi dire organique, comme s'il y avait d'un côté le cœur et de l'autre l'énergie qui le fait battre. Commençons par le cœur et sortons immédiatement des marécages de la métaphore. Le cœur, c'est la méthode. L'énoncé cardinal de la leçon du 13 février 2014 est celui-ci. La seule façon de faire l'histoire de la philosophie médiévale, c'est de faire de la philosophie médiévale. Cette heureuse formule exprime l'une des composantes fondamentales de la méthode archéologique magistralement et littéralement mise en œuvre par Alain de Libera dans les termes de Collingwood, le constructive reenactment. Ce qu'il s'agit de réeffectuer dans le présent, c'est un questionnaire passé. Faire sien aujourd'hui, ce questionnaire que l'on aura identifié, reconstitué, voire reconstruit, voilà ce que veut dire faire de la philosophie médiévale. En ce sens, il est non seulement possible, mais nécessaire, mieux de refaire au présent la philosophie du passé. Mais cela est-il vraiment possible ? Est-il seulement raisonnable de tenter de le faire ? Il y a bien sûr des limites de principe à l'entreprise, comme nous le rappellent ces lignes célèbres tirées des fictions de Borges, encore lui, que je cite. « Comparer le Quichotte de Ménard à celui de Cervantes est une révélation. » Celui-ci, par exemple, écrivit « La vérité, dont la mère est l'histoire, émule du temps, dépôt des actions, témoin du passé, exemple et connaissance du présent, avertissement de l'avenir. » Rédigée au XVIIe siècle par le génie ignorant Cervantes, cette énumération est un pur éloge rhétorique de l'histoire. Mais la vérité, dont la mère est l'histoire, émule du temps, dépôt des actions, témoin du passé, exemple et connaissance du présent, avertissement de l'avenir. L'histoire, mère de la vérité, l'idée est stupéfiante. La fable borgésienne peut nous inciter à reconsidérer, c'est-à-dire à limiter l'idée du reenactment, à la lumière de la temporalité des sujets pensants, parlants et écrivants. La limite, en l'occurrence, n'étant autre que le présent. Il y a en effet un sens en lequel la philosophie médiévale appartient irréductiblement au passé. Et il y a donc un sens, et c'est bien le mur contre lequel bute Ménard, en lequel refaire au présent une philosophie du passé est tout bonnement impossible. Est-ce une raison suffisante pour jeter l'archéologue avec l'eau des CQR ? Probablement pas. Il s'agit toutefois, à mon sens, d'une bonne raison pour élever le constructive reenactment au niveau d'un idéal régulateur. Plus qu'à une marche à suivre contraignante, c'est à une norme méthodologique que nous avons affaire. Dans les limites que lui impose son propre présent, l'historien de la philosophie médiévale réeffectue donc des questionnaires passés, et ce faisant, il travaille sur ce que j'appellerai ici des CQR de premier ordre. Comme tout travail, celui de l'archéologue a un produit et ne peut se faire qu'à certaines conditions, la première d'entre elles étant philologique ou plus exactement paléographique. Sans lecteur de manuscrits, sans éditeur de textes, pas d'histoire de la philosophie médiévale. Quant au produit, quel est-il ? Que lit-on dans les travaux d'histoire de la philosophie médiévale écrits selon la méthode archéologique ? Il y a les questionnaires et leurs questions constitutives. Puis il y a des réponses, réponses au sein desquelles il faut distinguer au moins deux niveaux ou strates. D'une part, les réponses propres questions, et en la propre question, et en la matière, c'est la philologie qui aura le dernier mot. D'autre part, les réponses de celles et ceux qui font l'histoire de la philosophie médiévale au sens libérien de l'expression, c'est-à-dire qui font de la philosophie médiévale aujourd'hui. Est-ce tout ? C'est déjà pas mal, vous me direz. On peut toutefois ajouter une strate, une couche à l'édifice qui à la fois le présuppose et nous fait quitter au moins d'un pied le terrain de l'historiographie proprement dite. Cette troisième strate est constitutive de ce que je voudrais appeler des CQR de second ordre. Et en la matière, c'est la philosophie qui donnera le ton. Quel sera alors le questionnaire ? Il ne sera pas médiéval, mais contemporain. Il n'aura pas de visée herméneutique, mais strictement doctrinale. Bref, il s'agira des questions que la philosophie d'aujourd'hui juge légitime d'adresser à celle du Moyen-Âge, étant donné ce qu'aura mis à jour le travail archéologique. De tels questionnaires de second ordre ne sont pas ceux de l'historien de la philosophie au sens strict, mais bien ceux du philosophe qui prend au sérieux le passé de sa discipline. La seconde partie de mon titre, pour des CQR de second ordre, annonce un plaidoyer. Je crois en effet qu'il est profitable à notre discipline de s'engager sur cette voie méthodologique. La chose est toutefois délicate parce que la mise en rapport visée par ces CQR de second ordre fait face, elle aussi, à une objection de principe. Étant donné que, par définition, les questions constitutives des CQR de second ordre ne sont pas et ne peuvent pas être médiévales, comment seraient-elles ne pas être du même coup inadéquates, c'est-à-dire impertinentes ? Est-il légitime, est-il seulement raisonnable d'adresser à des textes des questions qui ne se posaient pas, pire, qui ne pouvaient pas se poser au moment ? Ici, comme ailleurs, on ne part jamais de rien. Certaines choses sont présupposées. Le constructive reenactment partait du principe qu'il est possible de faire aujourd'hui de la philosophie médiévale. La mise en rapport qui m'intéresse, quant à elle, part du principe qu'il est possible d'interroger la matière médiévale avec des questions contemporaines, et cela avec d'autant plus de confiance que la philosophie médiévale, qui se voit alors soumise à la question, n'est autre que celle qui est faite aujourd'hui par quiconque adopte la méthode archéologique. Bref, il s'agit toujours bien du passé, mais tout se joue seulement dans le présent. La nature strictement contemporaine du philosophe médiéval d'aujourd'hui, c'est-à-dire de l'archéologue, est l'un des deux facteurs principaux qui garantissent l'applicabilité des questions contemporaines à la matière médiévale. L'autre facteur est ce garde-fou essentiel en lequel certains verront peut-être une forme de chauvinisme, mais qui en même temps tombe sous le sens. La création d'un CQR de second ordre, car il s'agit toujours nécessairement de création et non pas d'identification ou de reconstruction, cette création doit rester la prérogative absolue de l'historien, sous peine de vider entièrement l'entreprise de son sens et la priver par là même de toute pertinence et de toute légitimité. So far, so good, perhaps. Reste évidemment le concret de cette manière de travailler dont je me fais ici l'avocat. J'en évoquerai trois, auxquels je tâche de contribuer depuis quelques années. Et il me tient à cœur de préciser ici qu'il s'agit souvent de travaux collectifs, nés de multiples tâtonnements, de nombreuses errances, mais aussi parfois de quelques découvertes faites dans le cadre de projets de recherche nationaux et internationaux. Projets de recherche. Le mot est lâché. Au détour d'une conversation, qui m'est chère a eu cette phrase profonde. Il y a ceux qui dirigent des projets et il y a ceux qui écrivent des livres. Voilà qui m'a donné sérieusement à penser, mais qui ne m'a pas tout à fait converti pour autant. Mais revenons à nos exemples. Premier questionnaire de second ordre. Y a-t-il au Moyen-Âge des théories des états de choses? Les éléments doctrinaux de la philosophie médiévale contemporaine qui se voient adresser cette question sont, par exemple, les discussions autour de la sémantique des propositions, les débats portant sur les objets de la connaissance, humaine ou divine, mais aussi sur ceux de la foi ou encore sur la notion de vérité. Deuxième questionnaire de second ordre. Comment s'articulent sémantique et pragmatique dans la philosophie du langage médiéval? Ici, la matière à interroger est fournie par les corpus de la grammaire et de la logique. Ces deux disciplines ne se réduisant pas à des théories de la congruence ou de l'argumentation, puisqu'elles regorgent d'éléments doctrinaux relevant aussi bien de la sémantique, de la psychologie et de la métaphysique. Troisième questionnaire de second ordre. Que veut dire réalisme dans la pensée médiévale? Dans ce dernier cas, ce sont les champs de la pensée médiévale qui s'affrontent des formes de réductionnisme et d'anti-réductionnisme qui seront mis sous la loupe. Au premier rang desquels, le questionnaire de Porphyre et ses avatars, bien sûr, mais aussi et parallèlement, l'extraordinaire déclinaison en métaphysique médiévale, substance, accident, essence, matière, forme, ens, in anima, extra animam, mixtum, subjectivum, objectivum, permanens, successivum, particulare, commune, maxime transcendens, aggregatum, collectum, diacens, etc. Diacens, etc. Donc, générées par de tels questionnaires. Elles ont quelque chose d'hybride et de constructif à la fois. Hybride, constructif à la fois. Hybride en vertu de cet anachronisme contrôlé et revendiqué dont elles relèvent. Constructif parce qu'elles permettent de passer de l'exercice contemporain de la philosophie médiévale à quelque chose qui en est comme la complication au sens horloger du terme. Faire de la philosophie avec la philosophie médiévale. Un dernier point avant de changer de registre. Je viens d'associer les CQR de second ordre à des complications. Mais pourquoi faire compliqué ? En plus d'être possible, ne sont-ils pas de vains gadgets historiographiques ? Ce qu'il y a à gagner dans cette manière de travailler est, je crois, assez évident. C'est l'intégration renforcée de la philosophie médiévale contemporaine dans la philosophie tout court. Bref, c'est faire un pas de plus dans la direction de la philosophie. Voilà donc pour la méthode, pour le comment, pour le cœur. Ma seconde prise de position concerne l'énergie qui fait battre ce cœur. Autrement dit, le pourquoi, la question gigogne des motivations et de la justification. De fait, avoir une idée de là où pourrait aller la philosophie médiévale est une chose. C'en est une autre que de savoir pourquoi elle devrait aller quelque part plutôt que nulle part. La question a à l'évidence. Car si ce qui précède a un sens, ce n'est pas seulement la philosophie médiévale, mais la philosophie tout court qui est concernée. Il s'agit donc maintenant de sortir du bois académique, d'engager la viande, comme disent si joliment les grimpeurs, bref, de se lâcher pour mieux prendre le taureau par les cornes et poser sur la table la question qui tue, ou peut-être pas finalement, pourquoi faire de la philosophie ? Question qui en appelle une autre, plus abyssale encore peut-être, qu'est-ce que la philosophie ? Alors j'ai 4 minutes et demie, c'est peu, mais c'est peut-être assez pour dire ce qui, à mes yeux, est essentiel. La philosophie est une pratique humaine. Il n'y a pas de philosophie sans philosophes et sans êtres humains. Ce qui singularise cette pratique est le fait qu'elle consiste en l'exercice sous sa forme la plus épurée de ce qu'il y a de plus distinctif en l'être humain eu égard au reste de la création. Un tel cumul de superlatifs est axiologiquement neutre. La philosophie n'est pas une pratique au-dessus des autres. Elle est seulement, mais c'est absolument crucial, plus radicale. Radicale dans ses principes, radicale dans ses questions, comme dans ses réponses. Bref, la philosophie, c'est l'usage radical de la raison. Mais pourquoi faire de la philosophie ? Soyons francs. En dehors d'une communauté intellectuelle qui, au mieux, reste confidentielle, les cours que nous donnons, les textes que nous éditons, les projets que nous dirigeons, les livres que d'autres écrivent, tout cela, et il s'agit de produits de vies entières, tout cela passe très largement inaperçu et reste pratiquement sans impact. Alors à quoi bon ? L'essentiel, heureusement, est ailleurs. Mais où ? Il y a une réponse assez simple à cette question. En tout cas, c'est celle que je vous propose. Ce que nous faisons aujourd'hui, comme ce qu'ont fait avant nous, les médiévaux ou les anciens, des quelques superstars à l'immense masse des anonymes, tout cela est constitutif de l'identité humaine. Sans la philosophie, la pleine conscience de qui nous sommes, de ce que nous sommes, demeurerait toujours tronquée. Et si cela vaut sans doute pour d'autres pratiques humaines, cela vaut peut-être en premier lieu et en vertu de sa nature même pour la philosophie. Et la dimension historique pèse ici de tout son poids. Avoir conscience de qui, de ce que nous sommes, c'est aussi, et pour une part significative, savoir d'où nous venons. Quant à savoir, je crois que la philosophie doit s'engager sur ce terrain, non pas qu'il serait en son pouvoir de changer notre destination, mais parce que cet usage radical de la raison s'avère vital lorsqu'il s'agit de penser, c'est-à-dire de faire face à cet impensable qui se profile chaque jour de manière un peu plus précise. L'être humain s'est non seulement donné les moyens, de sa propre extinction, mais il les met systématiquement et efficacement en œuvre. Alors, attendez, il ne faut pas confondre reenactment et réchauffement. S'interroger, par exemple, sur l'existence de théories médiévales des états de choses, ça n'est pas à lutter contre le réchauffement climatique. Non. Pas davantage qu'éditer une collection de sophismata, fût-il de Radulfus Ardens, n'apporte de l'eau chaude, bien entendu, au moulin climato-sceptique. Néanmoins, et cela peut surprendre, si la philosophie médiévale doit bien aller là où est la philosophie, c'est là aussi qu'elle doit aller. L'énergie de l'archive n'est pas seulement fossile, elle est aussi renouvelable. 30 secondes pour conclure. On ne peut faire de l'histoire de la philosophie sans faire de la philosophie. J'ai plaidé ici pour une histoire au passé composé, métaphore grammaticale désormais transparente. Les questions de la philosophie contemporaine adressées à la matière médiévale sont pour nous des auxiliaires au présent pour parler du passé. Créer et cultiver des CQR de second ordre, voilà une direction parmi d'autres que peut prendre aujourd'hui la philosophie médiévale. Je vous remercie.